L'économie américaine envoie présentement des signaux qui peuvent sembler contradictoires. Est-ce simplement une nouvelle phase du cycle économique ou les ingrédients d'un scénario plus préoccupant commencent-ils à se mettre en place? Dans mon commentaire cette semaine, je vous explique ce qu'est réellement la stagflation, pourquoi les marchés commencent à s'y intéresser et ce que les données américaines nous disent aujourd'hui. Bonne écoute! Est-ce que les États-Unis se dirigent vers la stagflation? Ça semble peut-être dramatique comme questionnement, mais ça mérite de se poser la question. Premièrement, quand je parle de stagflation, juste pour réfléchir en mémoire, c'est quoi la stagflation? En fait, c'est une expression qui est arrivée dans les années 70, vous allez comprendre pourquoi. La stagflation, c'est une situation où, en même temps, il y a trois conditions économiques qui se rencontrent. OK? Donc, puis c'est pas normal, puis je vais m'expliquer. Premièrement, c'est dans un moment où la croissance est presque nulle ou très faible. Puis, en même temps, il y a de la faiblesse de l'emploi. Par exemple, un taux de chômage qui augmente, le taux de participation des gens sur le marché du travail s'affaiblit. Dans cet environnement-là, en général, ce qu'une banque centrale va faire, bien, elle va baisser son taux pour justement stimuler l'économie, favoriser l'investissement, les entreprises qui vont emprunter, des consommateurs aussi. Mais pourquoi que dans ce cas-là de stagflation, la réserve fédérale est très limitée? C'est qu'en même temps, il y a de quoi d'anormal qui se passe. L'inflation se présente. Puis dans les années 70, il y a eu un choc pétrolier que le pétrole a monté. Puis si le prix de le pétrole et de l'essence reste élevé longtemps, ça va toucher plein de strates de l'économie. Pensez juste au transport de fruits et légumes. Bien, ton fruit et légumes, le prix va augmenter parce que son coût de transport va être plus élevé. Donc maintenant, je ramène ça en 2026. Bien, regardez ce qui se passe actuellement. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est mercredi. On vient d'avoir les chiffres d'inflation là, le CPI américain qui est le chiffre de tête est à 3,4%. Puis évidemment, il y a des facteurs volatiles comme la nourriture, qui pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube en vidéo, qui est quand même saine. Puis tous les autres facteurs, outre la nourriture et l'énergie, parce que ces deux facteurs-là sont très volatiles, bien, on est toujours de 3,5 à peu près pour cent. Ce qui fait que l'inflation est quand même collante au-dessus de la cible, mais là où j'attire l'attention, c'est à quel point il y a une inflation énergétique. Et là, il faut se poser la question. Si, par exemple, il n'y a pas une entente au niveau du détroit d'Hormuz, bien, est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde où le baril de pétrole reste plus élevé plus longtemps? On voit que la Chine utilise ses propres réserves énergétiques de pétrole. Il y a des facteurs positifs comme l'OPEP qui augmente sa production. Mais dans un monde où des pays, il y a des enjeux éventuellement d'approvisionnement, bien, peut-être le baril de pétrole va rester collé un peu plus fort. Puis ça, comme les années 70, il va y avoir des éléments où, dans d'autres postes de dépenses, dans d'autres secteurs, que ce soit des billets d'avion, que ce soit du transport des biens qui sont transportés par du transport maritime ou encore dans le secteur des fruits et légumes, etc., où est-ce qu'on voit cette inflation-là graduellement s'imprégner, on voit une inflation qui revient encore plus forte, plus collante, plus résistante. Puis en même temps, on est encore dans une période de croissance économique, mais l'élan se perd. On a une économie qui oscille autour là, d'environ 1,5%. On n'est pas dans une économie qui est nécessairement forte, qui justifie une inflation plus pertinente. Et au niveau, la semaine dernière, la surprise, c'était les chiffres de l'emploi. Le niveau de participation est autour de 58-59% aux États-Unis. Il faut remonter à 2021 pour voir. Et on voit une pente légèrement baissière. Tout ça conjugué dans un monde où les taux d'intérêt, eux autres, augmentent. Les taux long terme, par exemple, les taux 30 ans sont à un sommet d'environ, je pense, c'est autour de 19 ans, plus que 15 ans du moins. Il faut se rappeler que les taux long terme, c'est la balise pour, exemple, les taux 10 ans pour du financement, que ce soit en immobilier, en investissement d'entreprise. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas une situation qui est alarmante, mais une situation qui mérite vraiment de faire attention. On vit un moment où le marché boursier, l'indice du VIX est à 15. On a un certain confort. Le S&P 500 est à peu près à 1 ou 2 % de son sommet. Pendant ce temps-là, on voit les taux d'intérêt augmenter parce qu'on voit les gouvernements qui ont des dettes quand même élevées. On voit une inflation plus persistante. Puis on voit un facteur d'inflation relié à l'énergie qui pourrait peut-être être plus longtemps qu'on pense dans un monde où l'économie est plutôt... il y a une croissance, mais qui a ralenti. Il y a un environnement d'emploi moins dynamique qu'on a observé. Donc, tout ça, c'est la recette potentiellement pour la stagflation. Là encore, je me répète, on crie pas un cri d'urgence, mais c'est certain, c'est des facteurs qu'on devrait surveiller en moyen terme, en 2026, pour voir l'état de la santé économique de l'États-Unis, puis des conséquences que ça pourrait avoir sur différents types de catégories d'actifs. Je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine.